Dans cet atelier, il y a des fruits suspendus au plafond, des fruits devenus lampes. Oui, oui, vous avez bien entendu. Ici, chaque luminaire commence par une coque de calebasse, séchée, travaillée, patiemment perforée à la main. Je suis chez Sarah Morin, ancienne salariée dans la grande distribution. Elle a choisi de quitter un univers qu'elle jugeait peu compatible avec ses convictions écologiques.
Le début de ma carrière s'est consacré essentiellement au développement produit des grandes enseignes de décoration. J'étais styliste tendanceuse pour la majeure partie des grandes enseignes connues. Au cours de ma carrière, j'ai vu l'essentiel des partenariats industriels quitter l'Europe pour partir à l'étranger. J'ai vu aussi des manières de produire de plus en plus délétères.
Aujourd'hui, elle transforme ses fruits cultivés pour leur coque en objets lumineux. Un travail artisanal minutieux où chaque pièce est différente. Ici, pas de production en série. La matière impose sa forme, ses aspérités et ses limites. Sarah Morin, elle, parle de cohérence, de respect du vivant, de ralentir le rythme. Des mots qui prennent sens lorsqu'on l'observe travailler, penchée sur une coque qu'elle perce millimètre par millimètre. Reportage dans un atelier où l'on tente de produire autrement.
Ma conscience écologique s'est réveillée. J'ai eu envie de produire le plus made in France possible pour dynamiser un tissu industriel, évidemment, et puis aussi garantir une qualité de production, des normes environnementales et sociales respectées.
Est-ce que vous pouvez nous présenter déjà le fruit avec lequel vous travaillez pour faire ces luminaires ?
Alors moi, je travaille avec des gourdes calebasse ou courge-bouteille. C'est de la famille des cucurbitacées. Ces fruits sont un peu oubliés en France parce qu'on en a perdu l'utilité au quotidien. Mais mes fruits poussent tous en France, dans le sud. Ce sont des fruits qui sont à l'origine étaient utilisés pour transporter l'eau, le vin, l'huile, enfin tous les liquides. Et qui sont encore très très présents dans plein de pays du monde. On a tendance à penser que la gourde calebasse est uniquement africaine, alors qu'en fait, elle pousse un peu partout sur tous les continents.
Donc du coup, c'est vraiment un fruit qui a de multiples facettes. J'ai vu par exemple qu'il y avait un luthier qui en faisait des instruments de vent, de cordes. C'est pas un fruit qui se consomme ?
C'est un fruit qui ne se consomme pas tout simplement parce qu'il n'est pas très bon. Il a une pulpe qui est assez proche de celle de la pastèque, une mousse mais non sucrée et amère. Contrairement à la pastèque ou aux autres cucurbitacées, lui, il a la particularité de sécher, d'avoir une coque qui devient dure comme la coque d'une noisette ou d'une noix. Et donc, il peut être travaillé. Creuser.
Comment est-ce que cette idée elle est née et pourquoi des luminaires ?
J'ai d'abord découvert ce fruit grâce à un voisin portugais qui, lorsque je lui racontais mes questionnements sur la façon de produire, m'a dit « Mais moi, mon grand-père, il faisait pousser ses bouteilles et il m'a donné quelques graines. J'ai trouvé ça génial. J'ai eu une première récolte. J'ai voulu faire d'abord des vases parce qu'il m'avait expliqué que donc, c'était la gourde de son grand-père berger. Finalement, l'eau ne restait pas absolument bien stable dans mes récipients. Je les ai du coup suspendus pour les faire sécher. Et là, je me suis dit, mon Dieu, mais c'est merveilleux en luminaire. Je vais plutôt transformer ça en lumière qu'en vase.
Le premier luminaire que vous avez fait, vous vous en rappelez ? Comment est-ce que vous l'aviez fait ? Est-ce qu'il y a eu des changements depuis ?
Alors oui, mes premiers luminaires, je m'en rappelle, je les ai mis en scène pour la première fois avec une association aujourd'hui disparue qui s'appelait l'Atelier Créatif à Compiègne, j'ai exposé au Hara. Je me souviens de ma première cliente qui était une cliente japonaise qui a acheté mon premier luminaire. Donc au départ, ils étaient unis et elle avait choisi la couleur jaune qui portait bonheur. Et j'ai appris plus tard que les gourdes calebasse étaient considérées au Japon comme des esprits protecteurs de la maison. Ils sont catalogués dans les Iyotan et voilà, je l'ai su bien après.
Avant même de devenir un luminaire, le fruit impose son propre calendrier. La calebasse est semée entre les mois de mai et les mois de juin. Elle pousse tout l'été, puis elle est ensuite récoltée à l'automne, entre novembre et décembre. Mais à ce stade, rien n'est encore prêt. Après la récolte commence une autre étape, invisible, le séchage. Le fruit doit se vider naturellement de son eau, un processus long qui demande plusieurs mois supplémentaires. Ce n'est qu'entre le mois de mars et celui d'avril, presque un an après sa mise en terre, que Sarah Morin récupère enfin une coque totalement sèche, prête à être travaillée. Ensuite, seulement le geste artisanal peut commencer. Découpe, nettoyage, dessin, les détails de ces étapes avec Sarah Morin, créatrice. créatrices de luminaires éco-conçus.
Selon les modèles, soit ils sont gainés de cordeaux et ensuite ouverts, poncés et mis en couleur, ou bien il y a certaines gammes, la gamme Cosmos notamment, qui est percée. Et donc là, le fruit est immédiatement ouvert, poncé, paré à l'intérieur de couleur et à l'extérieur également, et puis percé à la main. Là, on est dans la pièce où je mets en couleur mes luminaires. On est face à un mur où il y a une cinquantaine de petits papiers multicolores qui expriment non seulement les couleurs que j'ai en stock, mais qui peut permettre à mes clients de se projeter sur une couleur. On a des fruits qui sont suspendus à côté. Il y en a certains qui ont été cordés de cordeaux coton et qui attendent d'être mis en couleur. Ça va être la collection Bamako. Il y en a certains qui sont juste simples, unis, sans cordage, qui sont mis en couleur et qui attendent d'être percés. C'est la collection Cosmos. C'est comme un petit champ d'étoiles. C'est une collection qui a un grand succès dans la région parce qu'elle est à la fois contemporaine, poétique, elle plaît aux hommes comme aux femmes. Elle est assez intemporelle, elle va un peu dans toutes les maisons. On a aussi des guirlandes multicolores qui sont faites avec les fonds des calebasses. Le hangar, c'est une pièce que j'adore. Elle est pavée, elle a un côté très rustique. Il y a des grands rideaux qui couvrent des étagères qui sont remplies de fruits de différentes tailles et différentes formes. Il y a aussi toute une collection de suspensions qui sont installées. C'est des suspensions grappes qui sont un peu à mi-chemin entre l'œuvre d'art et l'objet de décoration. Elles sont très graphiques. C'est une association de 3 à 5 fruits colorés. Elles attendent d'être prises en photo dans un lieu dédié.
Et alors juste derrière nous, c'est là que vous travaillez tout ce qui est, tout ce qui va faire de la poussière du coup.
Oui, c'est ça. Mon matériel numéro 1, ça s'appelle une Dremel. C'est un outil mécanique qui ressemble assez à l'outil des dentistes. Il y a un long bras mobile. On y ajoute des outils de découpe, de perçage, etc. Je creuse, je ponce, je perce. Voilà, c'est là où le bruit de la machine se révèle.
Alors là, on le voit, hein, chaque fruit est différent. Il y a des formes différentes, des tailles différentes. Est-ce que c'est la forme qui guide vos mouvements, vos choix de couleurs? Ou est-ce que vous avez une idée précise avant de commencer?
Effectivement, un peu des deux. J'ai d'abord une envie, une ambiance que je veux évoquer. Mais le fruit guide absolument la façon dont je vais poser la couleur et j'ai vraiment l'impression de travailler comme on habillerait un être humain, c'est-à-dire que parfois la ceinture doit être portée haute et puis pour d'autres la taille basse leur sied mieux, pour certains un décolleté plongeant est extra et pour d'autres c'est un col roulé. Eh bien c'est la même chose pour les fruits, tout se joue de façon à sublimer la forme, à faire des défauts une qualité et à traduire leur mouvement le mieux possible.
Par rapport aux couleurs, est-ce que vous avez des associations préférées ?
J'aime beaucoup quand il y a une sorte de clin d'œil, un contraste, un imprévu, un événement. C'est ça qui me motive. J'ai souvent envie de donner un coup d'éclat, un peu de lumière dans ces lumières justement. Ensuite, je travaille aussi beaucoup en partenariat avec mes clients. Vous voyez ici des commandes qui ont été décidées par mes clients et la couleur qui est posée sur les fruits a été décidée par eux. Je laisse aussi une grande part de créativité aux clients qu'ils désirent.
En parlant des clients, ce sont des professionnels globalement de la région, c'est qui ?
Alors, mes clients, c'est un peu de tout. 70% de particuliers qui sont basés essentiellement en France et en Europe. Mes produits voyagent un petit peu aux États-Unis, un petit peu au Canada. J'ai des clients particuliers. Là, je viens de m'installer à Compiègne. Avant, j'étais basée à Pierrefonds, dans un endroit un petit peu en retrait. Et donc, ma clientèle devient locale que depuis un an.
Pour acquérir l'une de ces créations, il faut compter un peu plus de 100 euros pour les premiers modèles. Les pièces les plus travaillées, elles, peuvent dépasser les 1000 euros. Des prix qui reflètent un travail entièrement artisanal et un temps de fabrication qui s'étend, on l'a vu, sur près d'une année. De la calebasse à la lumière, les créations de Sarah Morin, un reportage réalisé par Axel Corby pour Radiographie.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.